On va continuer notre petit regard sur la belle et merveilleuse histoire de Ruth. Ruth, chapitre 2, quelques versets. Ruth, chapitre 2, et voici ce que nous lisons. Noémie avait un parent et de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Voici que Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Les serviteurs, chargés de surveiller les moissonneurs, répondirent, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. Elle a dit, « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue, ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant, la face jusqu'à terre et elle lui dit, « Comment ai-je obtenu la faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?» Boaz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère, ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Amen. Jusque-là. L'histoire de Ruth est une histoire extraordinaire. Formé de 4 chapitres très courts, un récit rempli de douceur dans un cadre très champêtre, riche en leçons spirituelles que nous voulons découvrir en nous attardant à l'étude de ce texte. Dieu relève après la souffrance et l'échec. Dieu change le mal en bien. Dieu change la famine en abondance. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à peu près les titres que l'on pourrait mettre pour ce livre. Peut-être que l'on pourrait dire de l'amertume à la grâce ou de la famine à la plénitude, etc. Nous avons remarqué la dernière fois que ce livre, le plus court de l'Ancien Testament, et ne se mesure pas à sa longueur, mais nous avons remarqué que ce livre est le seul qui porte le nom d'une non-juive. C'est le seul. Et nous avons également un autre livre appelé d'après une femme qui s'appelle Esther, qui est le nom d'une juive qui habite en milieu païen. Donc c'est l'inverse et dans chacun de ces livres, on voit un salut pour la suite, pour le peuple et pour sa descendance qui est due à cause justement de ces deux femmes, Ruth et Esther. Nous avons remarqué quelque chose de très important dans le chapitre 1 et vous le trouvez au verset 6 du chapitre 1 où il est dit que Naomi se leva. Elle se leva pour rentrer. Vous vous souvenez du contexte? Il y avait donc une famine à Bethléem. Élimélec, Naomi et ses deux fils sont partis dans le pays d'à côté pour se réfugier. Et puis, les malheurs se sont abattus sur cette famille coup sur coup. Il y a eu 3 deuils successifs. Le mari de Naomi est décédé, ainsi que ses deux fils qui, entre-temps, s'étaient mariés. Donc, 3 femmes se retrouvent veuves. Et abattue par une telle succession de malheurs, nous avons vu que Naomi, malgré tout, s'est levée pour rentrer à la fin de la famine. Parce qu'elle avait entendu dire que l'Éternel était favorable à Bethléem. Lorsque Dieu est favorable, lorsque on voit la faveur de Dieu, on est encouragé à s'approcher de lui, à revenir là, peut-être, où on a laissé la main du Seigneur. Il est toujours possible de revenir. Alléluia. Il est toujours possible de se lever, de lever sa tête. Il est toujours possible de se redresser pour aller dans le sens d'un retour à Dieu, d'une repentance, et véritablement de revenir là où on a peut-être lâché la main du Seigneur. J'ai parlé de tout cela la semaine passée, car nous savons qu'une famine en Israël, c'est pas une famine ordinaire qui peut se passer partout dans le monde. Nous savons que la famine fait partie des signes de la fin des temps. Mais à l'époque, en Israël, Dieu avait clairement dit, si vous désobéissez, il y aura des famines. Le ciel sera fermé et vos prières ne seront pas exaucées. Et c'est sûr qu'en étant en plus de ça à Bethléem, qui veut dire la maison du pain, il était étonnant de vivre une famine dans la maison du pain. Et tous les habitants de Bethléem auraient dû se poser la question, mais il y a un problème ici. Pourquoi y a-t-il une famine ? Et au lieu de fuir, ils auraient dû chercher la face de Dieu, revenir au commandement et implorer l'Éternel par un jeûne, par un retour à lui, par quelque chose. Le livre de Joël nous dit, mais si vous revenez tous au Seigneur, comment ne vais-je pas ouvrir les écluses des cieux ? Et je répandrai mon esprit à nouveau et j'ouvrirai les écluses des cieux. Les promesses sont tellement nombreuses, mais au lieu de cela, ils sont partis. Ils ont quitté cet endroit au lieu peut-être de faire ce qu'il fallait faire. Les épreuves et l'incompréhension de tout ce qui s'est passé a eu pour conséquence de toucher la foi de Naomi. Naomi, c'est vrai, elle a eu la force pour se lever, pour rentrer. Mais elle a tellement une mauvaise image d'elle-même. Elle a tellement cru un mensonge de l'adversaire qu'elle va dire, et écoutez ces textes qui transparaissent très clairement au chapitre 1, elle va dire, la main de Dieu s'est abattue contre moi. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. Comblé, j'étais parti, mais vide, l'Éternel me ramène. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Tout ça, vous trouvez ça au chapitre 1, verset 20, 21, etc. Elle avait vraiment cette conviction que Dieu était contre elle. Elle était vraiment convaincue qu'il y avait une malédiction sur sa vie. Frères et sœurs, j'entends souvent des personnes qui disent « Mais j'ai des problèmes dans ma vie, donc il y a une malédiction sur ma vie. Priez, pasteur, parce que vous avez l'autorité pour prier, pour enlever ça d'une manière magique. » Elle avait cette affirmation intérieure que toute cette succession de deuils et de malheurs, en définitive, c'était Dieu qui avait sa main contre elle. Elle croit ça. Elle croit ça et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le livre de Ruth nous montre que sa vie va être changée. Son regard sur elle-même et sur la situation va tellement changer que pour finir, elle aura toute une autre proclamation à la fin de ce livre. C'est tout le contraire. Elle sera comblée, elle sera bénie, elle sera véritablement gratifiée par des choses incroyables dans la vie, beaucoup plus qu'elle aurait espéré. Et ce soir, je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions cesser de croire aux mensonges du diable qui veut nous faire croire que nous sommes ceci, que nous sommes cela, que nous avons sur nous des malédictions, que nous avons sur nous. Bien sûr, quand il y a des choses difficiles, il faut se poser des questions. Mais en même temps, il faut revenir dans la foi là où Dieu nous attend, comme Naomi l'a fait. Et il faut s'éloigner de ces mensonges pour recevoir le juste regard sur Dieu et sur nous-mêmes. Car son nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Elle se sent véritablement coupée de Dieu à cause de ce passé douloureux et les épreuves ont voilé son regard. L'empêche de louer Dieu. L'empêche de regarder au-delà des souffrances. Elle en a fait une identité puisqu'elle va dire « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara », qui veut dire amertume. Elle croit que sa nouvelle identité, c'est son sort, c'est sa destinée. « Je suis amère, amère je suis, amère je resterai. » Et elle ne voit plus rien. Elle est centrée sur son mal et sur son passé douloureux. Et il faudra du temps pour sa guérison. Mais si Dieu a pu en 4 chapitres la guérir, Dieu peut bien aussi nous restaurer aussi en quelques temps. En peu de temps, car Dieu est le réparateur des brèches. Car s'il n'y avait pas eu cette famine, il n'y aurait pas eu de Ruth. Et Ruth va être cette compagne, cette belle-fille, qui va être l'instrument de Dieu pour la restauration de la vie de Naomi, mais aussi plus que cela, la restauration, la récupération des territoires perdus, comme nous allons le voir un peu plus tard. Sans cette famine, pas de bénédiction. Et les circonstances adverses vont être véritablement vaincues par le bienfait de Dieu qui va se révéler peu à peu. Il y a une direction divine, il y a un émerveillement dans tout ce livre et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une chose est étonnante, c'est que le témoignage de la famille de Naomi avec Élimélec et ses deux fils, quand ils sont à l'étranger, ils vont avoir donc deux épouses de Moab. Et quand Naomi va rentrer à Bethléem, elle va dire à ses belles-filles, « Restez chez vous, moi je rentre tout seul. » Elle avait peut-être honte de rentrer seule à Bethléem en disant, « Mais mon témoignage est tellement mauvais, tellement pitoyable que je préfère pas faire trop de bruit, je rentre seule, inconnue. » Pas qu'il y ait encore des problèmes supplémentaires. Et ce témoignage va faire en sorte que une des belles-filles va rester. Son nom est Orpa, qui veut dire le cou raide. Elle est, dans ce nom, il y a quelque chose qui signifie l'entêtement. Elle est tellement convaincue qu'elle doit rester. Elle est attachée à son pays, à ses divinités et à tout ce que représente sa vie sur le territoire de Moab. Tandis que Ruth va s'attacher à Naomi. Par ces paroles extraordinaires dont nous avons parlé, elle dit « Là où tu demeures, je demeurerai. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » L'une ne va pas accepter la foi d'Israël, l'autre va embrasser la foi d'Israël. Parfois, il ne faut pas juger trop vite. Lorsque dans une famille chrétienne, il y a des enfants où l'un croit au Seigneur, l'autre pas, ou pas encore. Il ne faut pas être trop rapide pour juger en disant « Mais... pourquoi ils ont mal éduqué leurs enfants? Pourquoi ils n'ont pas eu de résultats? » Soyons juste humbles et ne jugeons en tout cas pas que dans une même famille où parfois il y a de la même éducation, les choix sont différents et que les victoires ne sont pas tout de suite visibles. Il y a des enfants qui marchent très bien où les parents n'ont pas forcément un bon témoignage. Il y a des enfants qui marchent très mal où des parents ont un bon témoignage. Il y a aussi des cas mélangés où un enfant marche bien avec un bon témoignage des parents, l'autre pas du tout, etc. Ne jugeons pas. Tout comme ici, la Bible ne met aucun jugement sur la famille d'Élimélec pour dire pourquoi Orpa est restée et pourquoi Ruth est revenue. En tout cas, le regard de Ruth sur la vie, le regard positif de Ruth sur la vie, va contrebalancer le regard négatif de Naomi sur la vie. Et la bénédiction première que nous constatons, c'est que cet attachement entre ces deux personnes, Ruth et sa belle-mère, cet attachement incroyable va permettre le relèvement de Naomi. Ruth veut dire ami, amitié. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez un ami dans la vie, une amie dans la vie. J'espère que chacun vous êtes accompagné par quelqu'un qui s'intéresse à votre vie, qui prend de vos nouvelles, qui veut savoir comment vous allez, qui prie avec vous, etc. Je souhaite vraiment à tous. Je sais que certains souffrent de ne pas avoir d'amitié. Et c'est aussi le cas pour nos enfants, pour nos adolescents parfois. Et nous prions pour cela, pour que chacun trouve une amie. Mais l'amitié entre Ruth, l'amitié positive de Ruth va relever Naomi qui est plutôt négative. Et entre amis, eh bien l'un relève l'autre, n'est-ce pas ? C'est pas l'un qui descend l'autre, mais l'un relève l'autre. Et dans un couple, ça doit être comme ça. Lorsque l'un est un peu down, eh bien l'autre le relève. Lorsque l'un ne va pas bien, l'autre prie pour lui et l'autre l'encourage. C'est le cas de Ruth qui nous est dit à la fin du chapitre 1 que lorsqu'elles arrivent à Bethléem, eh bien c'est le début de la moisson des orges. Et elles arrivent dans un moment important de la vie agricole de l'époque, de l'année où les gens sont en train de moissonner. C'est la joie, c'est le plein boom, c'est le travail. Et Ruth voit ça avec un enthousiasme, elle a le sourire aux lèvres et elle se voit déjà faire des choses. Ici, quelque chose bouge, quelque chose marche. Et Naomi, elle a la tête vraiment par terre, elle a le regard baissé. Elle ne voit pas tout cela. Et ce regard positif sur la vie de Ruth va gentiment déteindre sur Naomi qui va peu à peu se relever. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous relève de temps en temps? Quelqu'un qui s'intéresse à votre condition? Quelqu'un qui se préoccupe de vous et qui, par son esprit positif, son esprit de joie, optimiste, va vous encourager à compter sur le Seigneur et à prendre courage dans la vie. Et j'espère qu'il y en a parmi vous qui peuvent dire « Ah, je suis quand même reconnaissant de ce que j'ai quelqu'un ». Et si quelqu'un peut-être est vraiment seul et se pose la question ce soir « Mais comment ça se fait que j'ai personne ?» Que je dois toujours me débrouiller seul dans la vie et que je rame et que ça ne marche pas. De tout cœur, j'aimerais vraiment ce soir prier avec vous. Et je me souviens que nous avons prié plusieurs fois. En tout cas, soit pour nos enfants ou pour d'autres dans les camps d'enfants aussi, pour que des enfants trouvent des vrais amis. Et je peux vous dire que Dieu exauce vraiment. Et que dans ma propre vie, je peux dire qu'il y a eu des circonstances adverses qui ont produit, qui ont généré des amitiés solides et incroyables. Je crois que vous l'avez déjà raconté, mais une des choses que je pourrais bien sûr jamais oublier et qui a été un élément clé pour notre famille, lorsque nous sommes arrivés à Vevey il y a bien longtemps, dans les années 87, eh bien suite à la maladie de notre enfant qui a été hospitalisé dès notre arrivée, eh bien cela a déclenché une amitié avec une personne de l'Église qui a eu compassion de nous à cause de cela justement. Et je l'ai raconté en détail, je ne vais pas le faire ce soir, mais lorsque j'étais à l'hôpital en train d'attendre qu'il faisait quelque chose avec notre enfant qui avait 6 mois à l'époque et qui était en train d'être piqué pour une ponction lombaire et que je l'entendais hurler, etc. Eh bien, au même moment où j'étais assis dans les escaliers pour attendre que ça se passe, il y avait une personne qui descendait l'escalier, qui s'est arrêtée près de moi, qui m'a regardé, mais il m'a dit, mais vous êtes le nouveau pasteur. C'était justement un membre de l'Église qui avait son mari à l'hôpital aussi et qui, en ce moment même, a eu une compassion pour nous. Et cette amitié qui est née à ce moment-là a duré jusqu'à sa mort. C'était extraordinaire. Et nous pourrions bien sûr raconter beaucoup de choses. Mais voilà que des circonstances difficiles ont créé des amitiés. Est-ce que vous pouvez vous identifier avec ce genre de situation? Donc, Dieu a vu la détresse de Naomi. Et Dieu a permis que Ruth s'attache à elle. Il lui a donné le cadeau. Ruth est un cadeau personnel du Seigneur pour sa belle-mère, pour la relever. Ruth est donc déterminée. Et déjà au pays de Moab, elle a toujours été intéressée par la foi d'Israël. Le Dieu d'Israël est quand même différent de ces divinités de Moab qui sont exigeants, qui ne répondent jamais aux prières, qui demandent des sacrifices en permanence. Et elle a dû sentir par l'arrivée de cette famille juive que le Dieu d'Israël respire la liberté, respire la vie, respire vraiment le bonheur, la joie, et ça colle avec la création. C'est tellement haut, tellement supérieur à toutes ces divinités que nous devons servir et à qui nous devons offrir un tas de choses. Et elle a été comme attirée pour rentrer en Israël, à Bethléem. Vous savez, Dieu met en chacun de nous une attraction. J'aimerais vous dire ceci, si vous croyez ce soir en Dieu, c'est que lui vous a attiré un jour. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne et que cela vous a été donné dès votre enfance, eh bien Dieu a choisi de vous attirer à lui. Il a mis en nous cette attraction vers lui. Il a mis en Ruth cette attraction de s'attacher à Naomi pour rentrer en Israël. Il y a une attraction surnaturelle qui a été posée dans son cœur. Et elle lève ses yeux vers les champs qui sont mûrs pour la moisson. Et alors que Bethléem, ce sera le village de naissance, le village natal de Naomi. C'est ça, Bethléem pour Naomi. Mais pour Ruth, Bethléem, ce sera le lieu de la révélation. Tout va se passer là-bas. La vie va commencer là-bas. Naomi rentre chez elle. Ruth commence sa vie là-bas. Naomi veut se poser pour avoir une mort digne dans son village natal. Elle veut revenir et tranquille. Et Ruth, elle voit la moisson, elle voit la vie qui commence, elle voit la vie qui tourne, elle voit l'espérance. Et elle est attirée par quelque chose. Sa vie explose, la vie commence. Ça, c'est l'image du chrétien. La moisson des orges commence en Israël à une fête très importante. Et ceci, je voudrais aussi l'illustrer. La moisson des orges, c'est le temps de Pâques. Et nous savons que c'est l'image de la rédemption. Et la fête de Pâques est suivie par la fête des prémices où on offrait les gerbes. Les premières gerbes étaient offertes à Dieu, les prémices de Dieu. Et Pâques représente la croix et la résurrection. Jésus est mort pour nous, tout comme l'agneau pascal rappelait finalement la sortie, la délivrance de l'Égypte. Jésus est mort pour nos péchés, pour notre délivrance. Il est ressuscité le matin de Pâques comme les prémices de ceux qui sont morts. Et il nous donne ainsi un avenir dans la vie nouvelle qu'il nous donne. Et du temps des juges, toutes ces fêtes n'étaient plus vraiment fêtées, célébrées. Et voici qu'une nouvelle moisson est là. Et Ruth et Naomi vont entrer toutes deux, peu à peu, dans cette nouvelle étape. Tout commence par la croix et par la résurrection. Frères et sœurs, elles arrivent à la fête de la moisson des orges, elles arrivent à la fête de Pâques. Leur point de départ à Bethléem commence là. Le point de départ du chrétien commence à la croix du calvaire, au pied de Jésus, dans la repentance où on dépose son fardeau, on reçoit le pardon de ses péchés, par la vie de résurrection où nous repartons avec la puissance de la vie nouvelle dans une étape nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela ? Oui, elles commencent leur vie à zéro. Elles sont presque réduites à la mendicité, toutes deux. En suivant sa belle-mère, Ruth va réellement endosser le manteau de la pauvreté. Ce n'est pas un chemin facile. Elle accepte le statut d'être pauvre et humble. Elle accepte de commencer tout en bas, en partageant la pauvreté de Naomi, à cause de son attachement et de son vœu. Ton peuple sera mon peuple, là où tu demeureras, je demeurerai, où tu mourras, je mourrai. Donc elle s'attache à Naomi et elle commence dans cet attachement à vivre tout en bas de l'échelle. En suivant le Christ, nous nous attachons à lui. Et que notre chemin soit tout en haut ou tout en bas, nous sommes et nous restons attachés, n'est-ce pas ? Nous sommes attachés dans les moments de chemin étroit, dans des chemins solitaires, dans les chemins difficiles, nous restons attachés. Et Ruth va dire, ok, s'il faut commencer par la mendicité, je commencerai par là. Mais elle refusera de se considérer comme une victime. Même si elle hérite de la pauvreté de Naomi, eh bien elle va jamais dire, mais pauvre de moi, j'ai pas de chance, j'ai pas de moyens, pas de force, pas d'argent, je suis inconnue. Mais elle prend de l'initiative. Ne vous considérez jamais comme une victime. Je l'ai si souvent dit. Ne nous considérons pas comme des pauvres victimes. Prenons notre destinée en main. Chacun peut le faire. Elle va dire au verset 2, Ruth dit, je vais aller glaner. Je commence quelque part. Même si je dois me baisser pour ramasser les épis qui tombent derrière les moissonneurs, eh bien, je ne vais pas croire que je suis trop bonne pour ça. Je vais le faire. Ne vous considérez pas comme des victimes en disant, mais comment ça? Je ne peux quand même pas m'abaisser jusqu'à faire ceci. Mais si, chacun peut commencer quelque part, même si ce n'est que ramasser un épi à la fois. Ça commence comme ça, mais ça ne se termine pas comme ça, ça se termine différemment. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. N'attends pas un grand ministère. Commence quelque part. Commence à ramasser les épis un à un. Simplement. Rempli d'espoir, de zèle, de courage. Elle est remplie de ce courage, cette bonne disposition du cœur. Car dans le mot courage, il y a le mot cœur dans l'original français. Et cette bonne disposition fait qu'elle n'est pas gênée d'être simplement glaneuse pour prendre les restes des autres. Commencez par les miettes. Elle commence au bon endroit. Mes amis, des fois, je préfère être pauvre et être à l'endroit où Dieu me veut que d'être riche et peut-être mal à l'aise à cause de choses mal acquises ou que sais-je. Je veux être au bon endroit, même si c'est pour un petit commencement et savoir que la bénédiction et l'approbation de Dieu est sur ma vie. Et je voudrais que vous ayez la même impression. Ruth, elle sait qu'elle est au bon endroit. Elle sait qu'elle est connectée à la bonne personne. Elle sait qu'elle est dans un temps favorable, le temps de la moisson. Et elle commence quelque part, dans un travail tout petit, tout humble. Et elle n'en a pas honte. Ruth est courageuse. Car je voudrais voir avec vous juste quelques caractéristiques de cette femme extraordinaire. Ruth est désireuse d'apprendre. Et elle va commencer avec sa belle-mère, à lire sa Bible. Ils vont commencer à lire les Écritures. Et peut-être qu'elles ont ouvert toutes deux leur ordinateur portable et elles ont tapé le mot « moisson ». Et puis elles ont trouvé toutes sortes de versets qui sortaient. Et voici, il y en a un qui est sorti. Vous le trouvez dans le Lévitique au chapitre 19. Et voici ce qui est dit au chapitre 19, verset 9. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin dans votre champ sans le moissonner et vous ne ramasserez pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées sur ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui sont tombés. Tu l'abandonneras aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et elles ont dit, mais ah, là c'est un verset pour nous. Ça nous concerne. Alors on va aller glaner dans le champ des autres, dans le champ de quelqu'un qui nous laisse de la place. Tôt le matin, Ruth est en route pour aller dans le champ quelconque pour glaner. Et puis, regardez comme c'est magnifique. Regardez son caractère. Nous avons relevé son courage, son humilité. Nous avons regardé son esprit positif, son regard sur la moisson, sur la vie qui s'ouvre. Regardez maintenant ce que l'on dit à son sujet. Au chapitre 2, regardez ce que l'on dit d'elle. Verset 11, « On m'a raconté, dit Boaz, en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. » En réalité, Ruth a déjà une réputation. Elle n'a encore rien dit, mais son témoignage la précède. Son témoignage est connu. Ça, c'est un chrétien modèle. Il n'a encore rien dit, mais sa vie a parlé. Il n'a encore pas montré à tout le monde qu'il a une Bible, mais il est une Bible ouverte devant le monde. On peut lire dans sa vie certaines choses intéressantes. « On m'a raconté, dit Boaz, tout le bien que tu as fait à ta belle-mère, etc., pour le bien que tu as fait à ton mari et comment tu as abandonné ton peuple, etc. » Vous connaissez la meilleure traduction de la Bible ? La meilleure traduction de la Bible, c'est celle qui est traduite par notre vie. C'est celle que nous traduisons devant les gens qui ne liront peut-être jamais la Bible, qui ne sont pas intéressés ou qui ont des préjugés face à cette parole de révélation, qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais notre vie parle. Notre vie parle. Votre vie est un témoignage écrit pour les autres. Quelqu'un a dit, ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Ce qui caractérise Ruth, ce n'est pas sa beauté ou sa jeunesse, sa connaissance biblique, son histoire, mais c'est son caractère. Elle est travailleuse, nous l'avons déjà dit. Elle va ramasser les épis un à un pour travailler toute la journée dans les champs. Quel courage! Je ne peux que penser, j'ai pensé à ma propre mère. Nous avions une ferme à la maison. Mon père était agriculteur, mais aussi il avait son métier. Mais ma mère, je l'ai vue et bien sûr je l'ai suivie moi-même des journées entières au temps de la moisson, de ratisser, de tirer le râteau large de 2 mètres. On le tirait comme ça pour aller glaner tout le foin qui restait par terre. Et elle en a fait des kilomètres, ma mère, à glaner. Je garde d'elle ce souvenir d'une femme travailleuse. Et même quand tant d'autres agriculteurs avaient déjà abandonné cette manière ancestrale de faire et laissé tout ça sur les champs, passer la machine, vite fait, bien fait. Eh bien, ma mère, elle allait encore glaner avec son râteau pour ramasser tout ce qui restait. Eh bien, je garde ce souvenir extraordinaire dans mon cœur que ce courage m'a beaucoup plus parlé que ceux qui conduisent de grosses machines et qui veulent tout de suite être sur les moissonneuses batteuses à 200 chevaux. Mes amis, ce n'est pas le tape à l'œil qui souvent est la première chose qui nous frappe, mais ici la Bible met pas l'accent là-dessus. La Bible met l'accent sur le caractère. Votre caractère compte. Votre capacité, votre courage, votre loyauté, votre attachement, votre regard sur la vie, sur les autres, c'est ça qui compte. Ce n'est pas forcément les résultats en toutes choses. Elle est reconnaissante pour chaque épi qu'elle trouve. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes reconnaissants pour chaque épi qui rentre dans notre porte-monnaie, pour chaque salaire qui rentre, pour chaque résultat que nous avons? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on s'arrête encore aujourd'hui pour dire, Seigneur, on te rend grâce? C'est là tout le sens de la dîme aussi. C'est de juste s'arrêter en disant, mais si j'ai un salaire, c'est vrai, j'ai travaillé, j'ai transpiré, j'ai bossé dur, comme on dit, mais néanmoins, ça reste une grâce. Nous sommes quand même privilégiés d'avoir une sécurité, un travail et une paye qui arrive. Il y a tant d'autres qui n'ont rien du tout. Tant d'autres, et ils sont bien plus nombreux que ceux qui ont quelque chose actuellement. Et la dîme nous permet de nous arrêter, juste nous arrêter et dire, Seigneur, merci pour le salaire qui arrive, pour les épis que j'ai pu glaner. Et en reconnaissance, je t'offre le dixième. C'est juste le temps de s'arrêter par reconnaissance. Et je voudrais vous encourager simplement, même si vous avez l'impression que ce n'est que quelques épis qui rentrent l'un après l'autre et que c'est peu de choses, eh bien, regardez Ruth lorsqu'elle rentre avec les bras chargés de tout ce qu'elle a travaillé. C'est juste ça, juste un fagot. C'est juste un sac de grains. Elle rentre avec joie et elle dépose son sac devant Naomi. Regarde ce que Dieu m'a permis d'avoir aujourd'hui. J'ai travaillé tôt le matin jusque tard le soir. On a quelque chose et on remercie Dieu ensemble. Est-ce que nous avons encore cette reconnaissance devant nos assiettes pleines ou notre salaire qui arrive à la fin du mois? Est-ce que nous avons encore cette reconnaissance? Je vous pose la question. Elle va donner assistance à sa belle-mère. Lorsque vous lisez la suite du chapitre 2, on voit vraiment que cette complicité harmonieuse avec sa belle-mère. Regardez ça, au chapitre 2, verset 19. Sa belle-mère lui a dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Et elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé. Il y a un échange. Il y a une conversation familiale. Chapitre 3, verset 16 encore. Ruth revint auprès de sa belle-mère qui lui dit, « Est-ce toi ma fille? » Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Il y avait cette communion dans la famille. Ce n'était pas chacun pour soi. Ce n'était pas chacun mange devant son assiette et puis on ne parle pas. Il y avait un échange, il y avait une harmonie, il y avait cette douceur de la communion. Naomi avait besoin de cette douceur pour se relever, besoin de ces encouragements de sa belle-fille. C'est magnifique. Il se trouva par hasard, regardez encore avec moi cela, au verset 3 donc du chapitre 2, que la pièce de terre appartenait à Boaz. On va parler de ça la prochaine fois. Qui est cet homme véritablement? Qui est-il et qu'est-ce qu'il peut faire? Et nous allons découvrir quelque chose de très, très intéressant et très beau qui va vraiment être le plan de rédemption pour la famille de Naomi, mais aussi pour tous les territoires qui ont été perdus et qui vont être retrouvés à cause de la rédemption, car cet homme va avoir le pouvoir de rachat et on en parlera la prochaine fois. La main de Dieu va diriger toute chose pour que Ruth aille glaner juste dans le bon champ. Je pense que nous pouvons tous raconter des histoires où nous avons tous, entre guillemets, par hasard, été conduits dans le bon sens. Par hasard, rencontré quelqu'un qui était juste au bon moment, au bon endroit. Je me souviens de cette histoire où, à l'ouverture du rideau de fer en Russie, il y avait un hangar où on avait déposé des Bibles qui avaient été confisquées pendant des années. On a confisqué les Bibles des gens qui en avaient une sous le régime stalinien. Et à l'ouverture, des chrétiens de l'Occident sont allés, ont eu des contacts avec les autorités locales pour demander s'ils pouvaient avoir accès à ces Bibles, parce que c'était connu. Et lorsqu'on a enlevé le cadenas de cette porte et qu'on a ouvert cette porte, il y avait un tas de Bibles simplement comme ça. Et figurez-vous ce qui s'est passé, c'est authentique cette histoire, qu'une des personnes accompagnantes qui devait ouvrir le portail et qui devait guider l'équipe à récupérer finalement ces vieilles Bibles, une de ces personnes a juste tendu la main sur une Bible. Elle a dit, tiens, je vais regarder ce que c'est, a feuilleté, et puis dans la première page de cette Bible, elle était dédicacée à une personne. Incroyable, mais cette personne, c'était sa grand-mère. Par hasard, elle a été touchée. Cette personne a été complètement ébahie de voir que c'était la Bible de sa grand-mère qui avait en son temps été confisquée, mais qui maintenant était retrouvée. Le hasard de Dieu fait bien les choses. Et je pense que nous tous pouvons dire, Seigneur, tu nous as conduits, tu m'as conduit tellement de fois, pour que les bonnes choses se passent dans ma vie. Eh bien, je voudrais juste pas parler de Boaz et de son caractère, j'en parlerai la prochaine fois, mais juste terminer par deux petites glanures intéressantes. Puisque nous sommes en train de glaner, parlons de deux glanures bibliques. Au verset 8, je vais prendre la première, où il nous a dit « Écoute ma fille, c'est donc Boaz qui parle, ne va pas glaner dans un autre champ. » Ne va pas glaner dans un autre champ. Vous savez, nous sommes tous tentés, un jour ou l'autre, d'aller glaner ailleurs. Certains ne veulent pas rester dans le champ dans lequel ils sont. L'herbe est toujours plus belle et plus verte ailleurs. Et on veut aller glaner là où ça peut être intéressant et ça sonne mieux. Mais je pense que le Seigneur veut dire, ne va pas glaner ailleurs. Viens à moi, Viens à moi, cherche Dieu là où il se laisse trouver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai un champ où tu peux glaner. J'ai un endroit où tu peux être bien. J'ai un endroit où tu vas te sentir à la maison. Je crois que Ruth, lorsqu'elle est arrivée dans ce champ de Boaz, elle a dû sentir l'approbation de Dieu. Elle a dit, mais je me sens bien ici avec ces moissonneurs et ces gens qui me respectent. Je me sens bien ici, je me sens comme motivée, je me sens reconnue, je me sens respectée, je me sens bien. Et j'ai l'impression que Dieu va faire de grandes choses ici. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre champ? Dans le champ dans lequel vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous avez envie d'aller glaner ailleurs? Je pense que je peux le dire honnêtement, dans nos villes aujourd'hui, il y a tellement de va-et-vient des chrétiens. On vient, etc. On va glaner partout. On va glaner sur Internet, on va glaner dans toutes sortes d'endroits. Parfois, c'est nécessaire d'être connecté à autre chose. Mais il y a un champ où Dieu t'appelle à rester. Glane ici et ne va pas glaner ailleurs. Ne t'éloigne pas, sois en paix, regarde et attends-toi pleinement à Dieu. Et puis, ce que je voudrais encore dire, c'est au verset 20, où il nous est dit, Naomi, déjà au soir du premier jour, lorsque Ruth arrive, ses bras chargés de cette récolte du premier jour, Naomi va dire, qu'il soit béni de l'Éternel, ce qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Véritablement, Naomi, qui avait une si mauvaise image d'elle-même, elle croyait que Dieu était contre elle, que tout s'était ligué contre elle et que la vie était vraiment que amertume. Elle est déjà en train de relever sa tête. L'avez-vous remarqué? Déjà, elle parle de la miséricorde de Dieu pour les vivants et même pour ceux qui sont morts. Donc elle regarde même en arrière en disant, Seigneur, peut-être que tu vas vraiment changer le mal en bien. Elle a vraiment ce regard nouveau qui pointe maintenant et elle retrouve sa nouvelle identité puisque Naomi veut dire grâce. Gracieuse et Mara dont elle parlait autrefois veut dire amertume. Elle est en train d'enlever son manteau de Mara et elle est en train d'endosser à nouveau sa véritable identité de Naomi. Alors, ce soir, j'aimerais encore que soit suscité dans notre cœur de la reconnaissance. Tout à l'heure, je disais, est-ce que vous avez une Ruth à côté de vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous encourage? Quelqu'un qui vous donne de regarder en haut et non pas en bas? Quelqu'un qui s'attache à vous et qui vous aime tendrement et qui vraiment va tout faire et qui va venir avec quelques glanures pour vous encourager. Et peut-être vous aussi soyez une Ruth pour quelqu'un. Cette semaine, peut-être vous pensez à quelqu'un mais qui est tout seul. Glanez quelque chose de la parole, glanez quelque chose de votre expérience, glanez votre témoignage et amenez-le dans sa maison afin qu'elle soit encouragée. Et je prie qu'elle vous soit envoyée et soyez-vous une Ruth pour quelqu'un d'autre. Ruth veut dire amitié. Simplement, soyez une amie. Il y a tant de gens qui sont en difficulté, en souffrance, et qui ont besoin justement d'un contact avec une Ruth. Et je crois ce soir que Dieu va relever aussi ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ceux qui pensent que Dieu est contre eux, que Dieu ne les bénit plus, ou qu'ils ont perdu courage, perdu la foi. Je voudrais que vous puissiez dire comme Naomi l'a dit, l'Éternel n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. L'Éternel n'abandonne pas sa bienveillance envers moi. Amen.